RFI, il est midi et demi à Paris, une heure de moins, temps universel. Bienvenue sur RFI, merci d'être avec nous pour deux heures de décryptage, d'analyse, de reportage. Vous êtes à l'écoute de RFI Midi, c'est parti.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Et au sommaire, à quatre jours du troisième anniversaire de la guerre en Ukraine, immersion auprès des habitants du Donbass dans un instant. Nous reviendrons également sur les accusations lancées par Donald Trump vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, qu'il qualifie de dictateur, alors que les élections qui devaient avoir lieu l'année dernière n'ont finalement pas été organisées. J-3 avant les législatives en Allemagne avec ce débat hier soir entre Olaf Scholz, le chancelier dont le parti est troisième dans les sondages, et Friedrich Merz, chef de l'opposition sur le point de lui succéder.
Monsieur le chancelier, sans un miracle dans les quatre prochains jours, votre mandat devrait s'achever dimanche soir.
Réponse dans les urnes dimanche. Avec la première invitée de RFI Midi, nous reviendrons sur ce rapport alarmant paru hier dans la revue Nature qui alerte sur la fonte des glaciers. Elle s'est accélérée ces 10 dernières années. Pour analyser ce phénomène, Heidi Sevestre, glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, sera avec nous. Afrique Midi, ce sera à 13h30, heure de Paris avec Arthur Ponchelet. Le reportage international nous emmènera aux États-Unis, à la CPAC, grand-mère annuel des Républicains, à la gloire de Trump, un mois, jour pour jour après son retour à la Maison-Blanche, en présence évidemment de ses soutiens.
C'est Noël tous les jours, c'est ce que je me dis en me réveillant. Même si la moitié des réformes ne voit pas le jour, c'est génial.
Et puis pour prendre un peu de hauteur, décrypter en ce premier mois, nous recevrons Françoise Coste, spécialiste des États-Unis. Elle nous expliquera la stratégie de Donald Trump, la saturation de l'espace médiatique, sa manière d'occuper le pouvoir et les conséquences que ça a, mais aussi les garde-fous censés exister. Merci d'écouter RFI, on est ensemble pendant deux heures.
RFI Midi, l'Europe à midi.
À quelques jours du troisième anniversaire de la guerre en Ukraine, les combats font toujours rage entre armées ukrainiennes et russes, dans le Donbass notamment. La bataille de Pokrovsk, où les forces de Kiev tentent inlassablement de repousser les troupes de Vladimir Poutine qui sont aux portes de la ville minière annexée par la Russie, mais qu'elle ne contrôle pas totalement. Et si la ligne de front se rapproche, les habitants, eux, hésitent encore à quitter leur maison. Reportage des envoyés spéciaux de RFI à 5 km de Pokrovsk, Anastasia Becchio et Boris.
Une allure qui détonne dans cette bourgade assoupie entourée de terrils. Capuche avec des cornes sur vêtements, enceinte portable en bandoulière, Nikita, 17 ans, a été chargée par ses parents de venir chercher un carton d'aide alimentaire devant la mairie.
On réfléchit à partir dans la région de Tchernihiv, parce que le front se rapproche.
En cette matinée ensoleillée, les échos des combats qui se déroulent à une douzaine de kilomètres semblent lointains. Des obus ont déjà été tirés sur la localité, mais Tatiana, retraitée, n'a pas l'intention de partir.
On restera ici et advienne que pourra. Pourquoi ils font souffrir les civils? C'est terrible.
Au prix de grands efforts, Anatoly accroche le carton d'aide alimentaire sur son vélo. À 49 ans, cet ancien mineur, malade des poumons, en paraît 20 de plus. Si les Russes venaient jusqu'ici, ils ne partiraient pas.
J'aimerais bien sûr que ça reste ukrainien, mais à vrai dire, j'ai un oncle, des cousines en Russie, et je vous avoue que je ne sais pas qui croire. J'aimerais surtout qu'on vive tous en bonne entente, qu'il n'y ait plus de guerre entre nous.
Le pasteur Igor Yershov supervise les opérations de distribution d'aide alimentaire.
Les 90% de la population restée ici sont des personnes âgées. Quand on leur dit de partir, elles répondent « Mais où irions-nous ? » Et pour elles, peu importe qui de l'Ukraine ou de la Russie sera au pouvoir ici.
Plus que l'éventualité du passage sous drapeau russe, c'est l'envolée des prix qui préoccupe les habitants ou encore le fait que l'autocar ne passe plus que deux fois par semaine. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Suitelet, RFI.
Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, reçoit l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, avec qui il espère, je cite, une rencontre constructive malgré les vives critiques lancées par le président américain qui accuse l'Ukraine d'être à l'origine de la guerre, mais aussi Volodymyr Zelensky d'être un dictateur sans élection. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Les déclarations de Donald Trump ont été accueillies avec d'autant plus de stupeur qu'elles sont très souvent incontestable et fondée sur des informations factuellement erronées.
Oui, notamment sur le montant de l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine ou sur le nombre de victimes provoquées par cette guerre. Mais Donald Trump a déjà, par le passé, avancé des chiffres fantaisistes. Ce qui est nouveau, c'est que le président américain adopte un discours et reprend des éléments de langage qui semblent sortir tout droit de la propagande russe. Volodymyr Zelensky, qui tente de ne pas se mettre totalement à dos Donald Trump, a tout de même regretté que le président américain soit aussi perméable aux thèses avancées par la Russie de Vladimir Poutine.
Cette désinformation que nous avons vue, nous comprenons qu'elle vient de la Russie. Le président Trump, pour qui nous avons beaucoup de respect, vit malheureusement dans cette bulle de désinformation.
Alors, parmi ces déclarations de Donald Trump qui relèvent de la désinformation, il y a ce chiffre de 4% de taux d'approbation du président ukrainien, chiffre qui n'a aucun fondement.
Oui, car s'il est difficile de mener des enquêtes d'opinion dans un pays en guerre, il y en a quand même quelques-unes qui ont pu être faites. Et ces enquêtes, eh bien, elles montrent que Volodymyr Zelensky bénéficie tout de même encore du soutien de la majorité des Ukrainiens, même s'il est moins populaire que depuis le début de la guerre. Une dernière enquête de l'Institut international de sociologie à Kiev relevait 57% d'opinions favorables au début du mois, très loin donc de ces 4% avancés sans aucune source par Donald Trump.
Et autre déclaration de Trump tout aussi choquante pour les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky serait un dictateur sans élection.
Oui, alors d'abord, il faut rappeler que contrairement à la Russie de Vladimir Poutine, l'Ukraine est un pays où il y a depuis la fin de l'URSS des alternances démocratiques. Ensuite, que l'Ukraine, si elle n'a pas organisé d'élection présidentielle l'année dernière à l'échéance prévue du mandat de Zelensky, c'est en raison de la loi martiale décrétée suite à l'invasion du pays par la Russie et donc de l'impossibilité pratique d'organiser un scrutin en temps de guerre avec 20% du territoire occupé, 1 million de soldats mobilisés et plusieurs millions de réfugiés hors d'Ukraine. Cette absence d'élection et la supposée impopularité de Volodymyr Zelensky seraient donc deux éléments aux yeux de Donald Trump qui affaiblissent et qui délégitimisent le président ukrainien. Ce sont des éléments qui sont martelés par les médias russes et par les autorités russes depuis plusieurs mois.
Et enfin, il y a cette déclaration du président américain pour qui c'est l'Ukraine qui a débuté le conflit.
Oui, alors là, on est vraiment également dans le droit fil de la version donnée par Vladimir Poutine et par le Kremlin. Ce seraient les Ukrainiens qui sont à l'origine du conflit parce qu'ils auraient persécuté les russophones ukrainiens et refusé de renoncer à l'OTAN. C'est évidemment une version totalement erronée de l'histoire. En 2014, c'est la Russie qui a annexé la Crimée et qui soutient les séparatistes du Donbass. Et en 2022, c'est bien entendu la Russie qui envahit l'Ukraine. Il y a une inversion des faits à laquelle la propagande russe nous avait habitués de longue date, mais qui est aujourd'hui reprise telle quelle par le président américain. Et c'est sans doute à la fois sidérant et très douloureux pour les Ukrainiens de voir leur principal allié leur tourner le dos de cette façon en épousant et en confortant le récit de leur adversaire.
Décryptage signé Daniel Valot. Merci beaucoup. De son côté, au lendemain d'une nouvelle réunion, Emmanuel Macron convoque aujourd'hui les chefs de parti pour faire le point sur la situation en Ukraine et les efforts à fournir pour Kiev, alors que la Russie devient selon lui une menace existentielle. Premier tour de table pour le président français qui doit être reçu lundi peut-être à la Maison-Blanche par Donald Trump, lundi jour du 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Et la France n'est pas le seul pays européen à vouloir prendre en main les choses face au risque de guerre et les déclarations tonitruantes de Donald Trump. Le Danemark sort le chéquier, 7 milliards d'euros pour muscler son armée dans les deux prochaines années. La première ministre danoise veut aller le plus vite possible. Johan Grøn Christensen du Centre d'études militaires de l'Université de Copenhague.
Le Danemark est l'un des principaux pays européens en termes de soutien économique et politique à l'Ukraine, pour s'assurer que l'Ukraine reçoive du financement pour ses armes, ses avions, etc. Bien sûr, la Russie ne voit pas ça d'un bon œil et la classe politique danoise le sait très bien. Il n'y a pas, bien entendu, de menace militaire directe de la Russie contre le Danemark, qui n'est pas une nation qui se trouve au premier rang de l'OTAN, aux frontières de la Russie. Mais vu son activité, son vaste réseau logistique, logistique à plusieurs endroits, la guerre hybride russe pourrait constituer une menace contre les intérêts et les infrastructures danoises. Les services de renseignement danois pensent même que la Russie serait prête à mener une guerre à grande échelle dans 5 ans et que d'ici 2 ans, elle serait en mesure de mener une guerre localement suite aux possibles conclusions rapides des négociations de paix en Ukraine.
Des propos recueillis par Manuel Terradios.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
J-3 avant les élections législatives en Allemagne. Alors avant le scrutin, nouvelle et dernière bataille à la télévision entre Olaf Scholz, le chancelier, et son principal opposant, le chrétien-démocrate Friedrich Merz, donné en tête des derniers sondages hier soir. Retour sur cette soirée avec le correspondant de RFI à Berlin, Pascal Thibault.
À nouveau, c'est une rencontre à front renversé qui a eu lieu. Donnée battue depuis des mois avec un score pour les sociaux-démocrates 2 fois moindre que celui des conservateurs, Olaf Scholz était le challenger de ce débat. Le chancelier dos au mur n'a plus rien à perdre et attaque régulièrement son adversaire. Friedrich Merz, serein, se présente déjà comme le gagnant, avec le risque peut-être de faire preuve de trop d'arrogance.
Monsieur le chancelier, sans un miracle dans les 4 prochains jours, votre mandat devrait s'achever dimanche soir.
Olaf Scholz, qui espérait que, comme en 2021, il pourrait, dans la dernière ligne droite, permettre à son parti d'effectuer une remontée spectaculaire, n'a pas réussi. Son impopularité est trop importante. La rédactrice en chef du quotidien Bild, qui roule pour Merz, évoque le bilan catastrophique du gouvernement sortant. Scholz n'a pas d'autre choix que d'afficher son optimisme.
Je crois que beaucoup d'électeurs sont indécis et choisiront finalement le SPD pour me confier la direction du futur gouvernement.
Le chancelier doit serrer les dents et écouter les animateurs interroger Friedrich Merz sur ses futurs partenaires de coalition. Les sociaux-démocrates pourraient jouer ce rôle, mais Olaf Scholz a déjà exclu d'être ministre d'un chancelier Friedrich Merz. Pascal Thibault, Berlin RFI.
RFI Midi, Alban Le Prince.
On prend à présent la direction de la Slovaquie. 1 an et demi après l'arrivée au pouvoir de Robert Fico, qui n'a pas ménagé ses efforts pour installer ses proches à la tête de la justice, de la police, de son pays, allant jusqu'à mener une véritable purge au sein de l'unité de lutte contre le crime organisé. Certains de ses fonctionnaires de cette unité, tenus au devoir de réserve et donc représentés par leurs épouses, leurs sœurs, montent au créneau pour dénoncer les pratiques du Premier ministre slovaque qu'il qualifie de mafieuses. C'est un reportage signé Alexis Rosenweg.
Vérité et fiction est le nom de notre chaîne YouTube et de notre compte Facebook où nous nous employons à dénoncer les mensonges des membres de la coalition gouvernementale qui s'emploient à manipuler constamment les électeurs.
Jarmila Kotekova est l'épouse de Ladislav Kotek qui a démissionné de l'inspection de la police après avoir été rétrogradée.
Au début, bien sûr, l'idée était de défendre nos propres familles, mon propre époux, parce que la loi interdit aux policiers de s'exprimer publiquement et ils ne peuvent pas se défendre dans les médias, même en cas de diffamation. Nous avons pris cette responsabilité en leur nom, mais au regard de tout ce qui se passe en Slovaquie, nous agissons désormais au nom de tous les citoyens et pour l'intérêt général.
Dans une des vidéos publiées, il est question de la manière dont des cadres de la police ont été mis sous pression puis évincés par le pouvoir en place à Bratislava. Selon les femmes de Vérité et Fiction et selon de nombreux pourfendeurs du gouvernement, la Slovaquie est désormais un pays dans lequel le parti Smer de Robert Fico fait main basse sur l'État.
Le parti Smer a pris le contrôle de tout ce qui concerne les procédures judiciaires, de la mise en examen à la mise en accusation. La police et la justice sont manipulées de telle sorte que le régime devient autocratique dans un pays où les citoyens perdent leurs droits fondamentaux et où la justice ne va que dans le sens de certains privilégiés.
Outre la police et la justice, ce sont aussi les services de renseignement qui sont pris dans la tourmente et passablement décrédibilisés. Récemment encore, Robert Fico a affirmé se baser sur un rapport du contre-espionnage pour dénoncer un coup d'État fomenté contre son gouvernement par des ONG financées de l'étranger, sans aucune preuve tangible pour l'instant.
Dans la vidéo la plus récente de Vérité et Fiction, il est aussi question de ce qui a précédé la tragédie Jan Kuciak, assassiné en 2018 avec sa compagne. La chaîne révèle que le journaliste avait fait l'objet d'une enquête de police avant sa mort. Natalia Svitkova, l'épouse du policier Juraj Svitok, explique.
Pour nous, c'était important de montrer que tant pour Jan Kuciak en tant que journaliste que pour nous en tant que parents de policiers, ce n'est pas normal d'être l'objet d'enquêtes fouillées de la part de la police. C'est une situation très dangereuse dont les gens n'ont pas tout à fait conscience. Cela nous ramène au début des années 90.
7 ans après ce double assassinat qui a profondément marqué la Slovaquie, plusieurs personnes ont été condamnées, mais pas encore le principal commanditaire présumé qui avait des liens jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. C'est aussi pour cela que les trois femmes à l'initiative de la chaîne Vérité et Fiction ont choisi de diffuser l'enregistrement de conversations privées entre l'actuel Premier ministre, son ministre de la Défense et d'autres dans une maison de campagne.
Dans ces enregistrements, on peut entendre clairement, alors qu'ils étaient dans l'opposition, comment ils comptent s'y prendre dès qu'ils seront revenus au pouvoir et comment ils envisagent d'écarter ceux qui les gênent ou d'interrompre les procédures judiciaires contre leurs proches. Je pense que si cela avait été publié dans un autre pays démocratique, cela aurait entraîné immédiatement la démission des personnes concernées.
La chaîne Vérité et Fiction a gagné ces derniers temps en popularité parmi les Slovaques, en même temps que les manifestations ont pris de l'ampleur contre la coalition gouvernementale, non seulement contre ses méthodes controversées sur le plan intérieur, mais aussi contre sa politique étrangère, jugée trop favorable à la Russie de Poutine.
Alexis Rosenweig.
RFI Midi.
Et ça y est, on connaît enfin les équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, le Real Madrid, le PSV Eindhoven et le PSG qui a obtenu son ticket pour la suite de la compétition. Les Parisiens qui ont balayé le stade brestois à domicile 7-0 hier soir. Néanmoins, les Bretons qui faisaient leur premier pas en Ligue des Champions gardent la tête haute et ne veulent retenir que le positif. Sofiane Amazian.
10-0. En score cumulé, il n'y a pas photo, Brest et le Paris Saint-Germain n'évoluent pas dans la même cour. Balayés une première fois à Guingamp lors de la manche aller, 3-0 la semaine dernière, les Bretons ont sombré complètement au Parc des Princes. Mais seul compte le parcours historique pour le milieu breton, Mathias Pereira-Lage.
On a mis Brest sur la carte européenne, on a fait des très belles choses sur cette campagne et puis on a eu beaucoup de positifs surtout, donc vraiment se remémorer que le positif.
Malgré une bonne entame de match, Brest a fini par céder sous les assauts répétés des Parisiens. Bradley Barcola, Désiré Doué, le Géorgien Gvicha Kvaratskhelia ont notamment marqué. L'expérience des grands rendez-vous côté parisien a fait la différence pour Hugo Magnetti.
Ils ont l'habitude de jouer ce genre de confrontation aller-retour. Nous c'était notre première, donc je pense que l'expérience aussi de leur côté a dû jouer, mais on n'a pas démérité, je pense qu'on aurait mérité mieux sur les deux matchs.
Brest a touché 4 fois le poteau durant ce barrage, un manque de précision qui ne doit pas trop longtemps hanter des Bretons tournés vers la fin de saison dès le retour au vestiaire. Hugo Magnetti.
C'était beaucoup un discours où il fallait relever la tête, où c'était beau ce qu'on avait fait et qu'il fallait se tourner vite vers le championnat parce qu'on a de très belles choses aussi à faire en cette fin de saison.
9e de Ligue 1, qualifié en quart de finale de la Coupe de France, Brest peut encore rêver d'Europe dans les prochains mois.
Sofiane Amazian.
RFI Midi. Un monde de tech.
Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Alban.
On part dans l'espace avec vous aujourd'hui puisque la NASA va lancer mercredi prochain, le 26 février, un robot vers la Lune baptisé Grace. C'est une jeune pousse américaine qui l'a mise au point. Son objectif, ce sera d'explorer les cratères sombres du pôle sud lunaire à la recherche de glace et d'eau. Dominique, ce robot, il est unique en son genre puisqu'il effectue des sauts pour se déplacer et donc atteindre des zones qui n'ont jusqu'ici jamais été explorées.
Oui, et alors
Alors que les tensions géopolitiques de notre planète ont le don de nous harasser au quotidien, il serait peut-être temps de lorgner vers des mondes extraterrestres plus paisibles. Mais oubliez tout de suite Mars, car il est peu probable, au rythme du développement des programmes spatiaux, que des êtres humains puissent bientôt gambader sur le sol de la planète rouge. En revanche, notre retour sur la Lune se précise. Rappelle l'agence spatiale américaine, la NASA compte envoyer donc un petit robot chargé de trouver de l'eau sur la Lune. L'engin de 35 kilos, qui a demandé un investissement de 41 millions de dollars, doit explorer les cratères plongés dans une obscurité éternelle du pôle sud lunaire à la recherche de la glace que des comètes, en s'écrasant sur la Lune, ont déposée.
La particularité de Grace, ce petit robot, donc, c'est donc qu'il bondit pour se déplacer.
Effectivement, les propulseurs intégrés du rover lui permettront ainsi d'effectuer une série de 5 sauts sur la surface lunaire pendant une période de 10 jours terrestres. Le premier bond atteindra 20 mètres, le second 50 mètres, explique le vice-président des systèmes spatiaux de la jeune pousse qui a conçu ce robot. Un troisième bond franchira les 100 mètres d'altitude avant que Gracie, c'est le nom donné par ses concepteurs, ne plonge dans le cratère, dans un cratère particulier siglé de la lettre H par les scientifiques. Cette cavité de 20 mètres de profondeur est située à 500 mètres du site d'alunissage prévu. Cette zone intéresse au plus haut point la NASA, qui estime plus que probable la présence de glace d'eau piégée dans les roches lunaires depuis des millions d'années. Et pour maintenir le contact avec le robot sauteur au fond du cratère, eh bien la NASA a fait appel à la firme finlandaise Nokia, qui installera le premier réseau 4G sur la Lune. Le robot sauteur pourra ainsi transmettre des images et des données scientifiques avant de remonter automatiquement à la surface.
Dominique, partir à la recherche d'eau ou de glace sur la Lune, c'est capital avant d'envoyer des astronautes.
Oui, d'autant que la NASA prévoit une présence humaine durable sur notre satellite avec la construction d'une base permanente. L'eau est donc une ressource essentielle pour les futures missions lunaires. Elle permet par électrolyse, par exemple, de fournir l'oxygène nécessaire à la respiration des astronautes, de fabriquer du carburant à base d'hydrogène pour les fusées, mais aussi de cultiver des légumes sous serre. Le robot sauteur sera installé dans l'atterrisseur Athéna, lui aussi conçu par la jeune pousse américaine. Le lancement est prévu fin février, si tout va bien, à bord d'une fusée Falcon 9 de la firme SpaceX d'Elon Musk, depuis le centre spatial Kennedy de la NASA. Et si tout se passe bien, sans problème, ces petits sauts, du moins pour une machine, se métamorphoseront peut-être bientôt en bonds de géants pour explorer les autres mondes extraterrestres de notre système solaire.
Lancement prévu normalement le 26 février, donc c'est mercredi prochain. Merci beaucoup Dominique Dezonné, on vous retrouve demain pour un nouveau Monde de Tech.
RFI Midi.
RFI à Paris, 89 FM.
Et notre invité culture du jour est l'une des révélations de la chanson française, Santa, chanteuse renversante, véritable bête de scène. C'est en 2022, avec son tube Popcorn Salé, qu'elle se fait connaître. Le public tombe sous son charme avant la sortie l'année dernière de son premier album, Recommence-moi, sacré meilleur album vendredi dernier lors de la 40e cérémonie des Victoires de la Musique. Santa est l'invité d'Edmond Sadaka.
Je préfère danser avec mes silences.
Bonjour Santa.
Salut, bonjour.
Cette victoire de l'album de l'année, c'est en fait celle qui vous tenait le plus à cœur, je crois.
Oui, parce qu'elle salue déjà un album, Recommence-moi. C'est un album qui m'est si cher. Et puis, on ne peut pas faire deux fois un premier album. Il ne fallait pas que je passe à côté de celle-ci.
Vous êtes apparu lors des victoires suspendu dans les airs, la tête en bas. Vous aimez bien ces performances spectaculaires?
Oui, j'aime les grandes mises en scène. Ça a commencé par un concert à Bruxelles suspendu à 40 mètres de haut par une grue avec mon piano à queue. Et puis depuis lors, j'adore justement créer l'événement et faire briller un petit peu les yeux des enfants, mais aussi les yeux des enfants qu'il y a en nous.
Allez, viens!
Tout a commencé pour vous avec cette chanson Popcorn Salé que vous avez écrite seule dans votre chambre. D'ailleurs, vous n'étiez même pas sûr d'avoir envie de la sortir à l'époque.
Oui, ce sont mes amis qui m'ont dit non mais il faut absolument que tu sortes cette chanson, elle va faire du bien aux gens. C'est-à-dire qu'au début avec Popcorn Salé, ce sont des petits actes de piraterie qui ont fait que cette chanson passe petit à petit en radio. Je me rappelle des premières télés, c'était vraiment des actes de piraterie parce qu'il a fallu les arracher.
C'est pour ça que vous appelez affectueusement vos fans vos pirates. Ils ont été très efficaces pour vous faire connaître.
Oui, c'est grâce à eux, grâce à leur bouche à oreille, grâce à leurs stickers qui mettaient dans les supermarchés sur les boîtes de pop-corn, ou le fait d'en parler avec le cœur à leur famille, à leurs amis. Ça, pour moi, c'était un acte de partage et de piraterie. Et c'est grâce à eux que je suis là.
J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou.
La dernière de vos chansons s'appelle La Différence. Elle vient de sortir en single. C'est un hymne à la résistance, cette chanson, Santa.
Oui, on peut le dire comme ça parce que je le scande dans la chanson « Résiste ». Il faut faire preuve de courage pour rester ancré dans cette différence et pas se diluer dans les travers parfois cruels du regard de l'autre. Cette différence fait que l'on est beau et d'accueillir cette beauté avec réjouissance et pas culpabilité.
Alors vous allez entreprendre bientôt la tournée des Zéniths en France, il y a beaucoup de dates. Est-ce que vous avez des rituels avant de monter sur scène ?
Ah oui, ils sont trop nombreux. Je ne suis que rituel.
Un exemple.
Taper 7 fois les mains de toute l'équipe, alors elle devient très grande, ça me prend quand même vraiment beaucoup de temps. J'ai commencé à le faire et chaque fois que je le faisais, les concerts étaient bons. Maintenant, c'est une liste de rituels. J'enchaîne.
Merci, Santa.
Merci, je croise mes doigts. Tu vois, encore un rituel.
Tu feras la différence. Ton cœur prend de bac.
Santa qui partira en tournée à partir du mois de juin. Elle passera en France, en Belgique, en Suisse. Tournée qui s'achèvera le 2 avril 2026 à l'Accor Arena de Paris. J'ai regardé, il reste des places. Il est midi 56, heure de Paris, sur RFI, dans un peu plus d'une demi-heure, 13h30, Afrique Midi. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Et au menu aujourd'hui.
On sera d'abord en Côte d'Ivoire. La base militaire de Port-Boué a été rétrocédée à l'armée ivoirienne tout à l'heure, ce tournant historique. On en parle avec notre correspondante Binta Diagne. Direction ensuite Kinshasa, pour faire le point sur la situation dans l'est de la RDC. Le M23, soutenu par le Rwanda, continue son avancée. Et pendant ce temps à New York, toujours pas de condamnation explicite de Kigali par le Conseil de sécurité. À partir de 12h30, temps universel, on va aussi revenir sur une disparition, celle d'un monstre sacré, d'une légende du cinéma malien. Souleymane Cissé nous a quittés hier, il avait 84 ans. On revient en longueur sur sa vie et sa carrière avec notre invitée, Catherine Ruel, ancienne présentatrice de l'émission Cinéma d'aujourd'hui, Cinéma sans frontières sur RFI.
Merci beaucoup Arthur Ponchelet, on se dit à tout à l'heure, 12h30, temps universel pour Afrique Midi. D'ici là, on termine cette demi-heure en musique avec un duo franco-brésilien, Alceu Valença et Zaz. Mon bel amour, véritable carton au Brésil, vous êtes sur RFI.
RFI Midi.
La belle des jours.
Sur la plage de Boa Viagem, un après-midi merveilleux d'un dimanche bleu. Et bleu était la couleur de ton âme qui m'a envoûté. Dans l'après-midi d'un dimanche bleu, comme un cadeau silencieux, mon bel amoureux, mon bel homme heureux, mon bel homme heureux. Et je me souviens de ce bel homme de la plage de Boa Viagem. Cet homme apparu tel un ange un dimanche bleu. Et bleu était l'homme de jour, sa beauté m'a envoûté. Dans un rêve bleu ciel d'amour, il m'a fait voyager tout le jour. Mon bel amoureux,
belle des jours, oh, oh, belle.
belle de jour. La belle de jour era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas belle de jour no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul, la belle de jour.
Alceu Valenza, qui était en concert Salle Pleyel à Paris le 1er février. Zaz, elle partira bientôt en tournée européenne. Elle donne rendez-vous à ses fans le 3 décembre, notamment à l'Olympia à Paris. Restez avec nous dans moins d'une minute, un prochain journal avec Florent Guignard.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Prix Goncourt en 2016, Leïla Slimani vient de mettre un point final à 1200 pages d'une saga romanesque qui raconte l'histoire du Maroc à travers trois générations. Un dernier volume intitulé « J'emporterai le feu » où cette fois on entend la voix de Mia, née dans les années 80 à Rabat et qui rêve de devenir écrivaine.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.